Vous écoutez France Culture.
Résister plus que jamais. Résister, c'est d'abord ne pas renoncer à comprendre, à analyser, à décrypter le monde, ce qui nous entoure et ce qui nous arrive, même quand la terreur nous frappe dans nos quartiers. Résister, c'est continuer à écouter de la musique, continuer à aller au Bataclan, tous les bars et les stades de France. Résister contre la terreur, ne pas sombrer dans la peur. Bonjour, merci de vous réveiller en ce lundi 16 novembre avec France Culture. En deuil, oui, mais pas résigné, et plus que jamais, on le dit, un autre jour est possible. Cette semaine, toute cette semaine, en première partie de l'émission, de la musique live, quelques moments de joie, de communion, de performance artistique, enregistrés dans cette salle mythique parisienne, devenue depuis ce funeste vendredi 13 novembre, un haut lieu symbolique. Et aujourd'hui, on va écouter Cesaria Evora en 1995, Ciudad parisienne.
Otra vez camino longe, hemos otra vez camino longe, es camino pasando me.
En deuxième partie, comment les écrivains et les intellectuels du monde ont-ils vécu notre vendredi 13 novembre? Aujourd'hui, New York, avec le journaliste et critique littéraire Adam Schatz et l'écrivain algérien Kamel Daoud, auteur de Meursault contre-enquête, actuellement en tournée dans les universités américaines à l'occasion de la sortie en version américaine de son roman. Se vou escrever, monta escrever. Se vou esquecer, monta esquecer. Até dia que vou voltar. Se vou escrever, monta escrever. Se vou esquecer, monta esquecer. Até dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudade desse minha terra sem inclão. Saudade, saudade, saudade desse minha terra sem inclão. Thank you.
Soldat, 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 is minha terra sem inglês. Soldat, 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 is minha terra sem inglês. Soldat, soldat. Soldat, is your terra sem inglês. Soldat, soldat, soldat.
France Culture, un autre jour est possible. Et toute la semaine, on réécoutera quelques moments très forts, enregistrés dans cette salle touchée par le terrorisme, le Bataclan. Césaria Évora au Bataclan, comme un hommage aux victimes de ce vendredi 13 novembre et à cette salle de concert en plein centre de Paris.
Papa Joaquim Paris, você dá-me licença de uma hora e meia. Bamba chora Fernando. Oh, Fernando, minha primeira amor. Papá Joaquim Paris, você dá-me licença de uma hora e meia. Bamba chora, Fernando. Oh, Fernando, minha primeira amor. Futsina, primeira janela, tac-me na gos, tac-me na cacho, canta-me que paus que me, minha Fernandinha de meu, minha primeira amor. Futsira, primeira janela, tac-me na gote, tac-me na cacho, canta-me que paz que me, minha Fernandinha de meu, minha primeira amor. Papá Joaquim Paris, você dá-me licença de uma hora e meia. Pamba chora Fernando. Oh, Fernando, minha primeira amor. Papá Joaquim Paris, você dá-me licença de uma hora e meia. Bamba chora Fernando. Oh, Fernando, minha primeira amor. Futsira, primeira janela, tac-me na gote, tac-me na cacho, canta-me que paz que me, minha Fernandinha de meu, minha primeira amor. Futsira, primeira janela, tac-me na gote, tac-me na cacho, canta-me que paz que te me, minha Fernandinha de meu, minha primeira amor.
I love Paris in the springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the summer when it sizzles. Crazy about Paris in the winter.
You're reminded in this time of tragedy that the bonds of liberté and égalité and fraternité are not only values of the French people.
Et ce matin, deux témoignages de New York, avec, pour commencer, le journaliste et critique littéraire Adam Schatz, qui travaille pour le London Review Books, le New Yorker et le New York Times. Il est à New York, il connaît très bien Paris. Bonjour, Adam Schatz.
Bonjour.
Comment avez-vous vécu, à partir de New York, les attaques terroristes du vendredi 13 novembre à Paris ?
Comme un désastre incroyable, avec des conséquences qu'on ne peut pas prévoir maintenant pour la France, pour les relations entre la France et ses citoyens, en particulier ses citoyens maghrébins, et pour les relations entre l'Europe et les réfugiés et les peuples du Proche-Orient.
Vous étiez où et comment les gens qui étaient autour de vous ont réagi ?
J'ai des amis qui habitent dans le 10e et qui connaissent très bien le restaurant Le Petit Cambodge. Et pour eux, c'est une catastrophe. Je ne peux pas élaborer. C'est une chose qui est vécue d'une manière en même temps très personnelle et très, très politique. Surtout après les attentats du 7 janvier.
L'Amérique a été un des premiers pays, sinon le premier pays, à réagir, à témoigner sa solidarité. Le discours de Barack Obama, alors que les opérations étaient encore en cours du côté du Bataclan, où il y avait une prise d'otage, qui se terminait d'ailleurs par un carnage, nous ont fait chaud au cœur. Mais comment, à New York, autour de vous, Adam Schatz, les gens ont réagi? Est-ce que c'était au centre des débats? Quel genre de débat?
Oui, c'est complètement au centre du débat. Et en plus, je pense qu'il y a une peur qu'un attentat semblable peut se passer à New York, peut-être dans le métro. L'attentat de Daesh, la France était la cible. Parce que à cause des airstrikes in Syria.
Et est-ce que les quartiers visés, le Stade de France, la rue de Charonne, le Bataclan, le 10e, le 11e arrondissement de la capitale française, ce sont des lieux que vous connaissez, et est-ce qu'ils représentent quelque chose pour vous?
Oui, ces quartiers représentent pour moi les meilleures qualités de cette ville que nous tous aimons. Paris, une ville de, oui, une ville de liberté, une ville de joie de vivre, et c'est le quartier le plus hipster de Paris. C'est un peu comme le quartier de Brooklyn où j'habite, Fort Greene, mais c'est un quartier qui est très familier et qui me rappelle beaucoup de mon New York. Pour Daesh, les choses que nous admirons dans une ville, liberté personnelle, par exemple, ou le droit de vivre comme on veut vivre, ce sont les valeurs auxquelles un groupe comme Daesh s'oppose complètement. Je ne veux pas dire que c'est seulement une question de valeurs. Je pense que Daesh a des objectifs plus stratégiques dans sa guerre en Syrie et en Irak. Mais je pense que oui, Paris, comme New York, est un symbole d'un système de valeurs. Et Daesh est complètement hostile à ce système de valeurs. Je pense que tout dépend, ou presque tout dépend maintenant, sur la manière dans laquelle la France, Hollande réagit au massacre. Et que Daesh veut une guerre totale. Alors, il faut faire attention. Il faut prendre soin. Il faut penser très sérieusement avant de réagir exactement comme Daesh voudrait. Parce que Daesh est une organisation qui dépend de la guerre et de la mort. Et si la France réagit dans une manière où, par exemple, les jeunes français d'origine maghrébine se sentent opprimés ou discriminés, ça peut aider Daesh. Alors, il faut faire attention. C'est une situation très dangereuse et des mesures d'antiterrorisme très dures peuvent avoir un effet tout à fait contraire à ce qu'on veut.
Merci Adam Schatz. J'espère à très bientôt à Paris. J'espère que vous allez revenir bientôt dans cette ville que vous aimez. Et je rappelle que vous êtes critique littéraire, journaliste pour le London Review Books surtout. Et sinon, on peut aussi vous lire dans le New Yorker et le New York Times. Merci beaucoup d'avoir témoigné ce matin.
Merci Hakim.
Au revoir.
I love Paris. Holy Christ, but I love Paris. Because my love is here.
Et avec nous ce matin pour témoigner l'écrivain Kamel Daoud. Kamel Daoud à partir de New York, où il est allé faire la tournée des universités pour présenter son dernier roman, traduit en anglais, le Meursault contre-enquête. Kamel Daoud, bonjour.
Bonjour.
Comment avez-vous vécu de New York les événements qui ont frappé Paris ce vendredi 13 novembre ?
Écoutez, j'ai l'impression d'être dans une sorte de 11 septembre permanent maintenant. D'abord la stupéfaction, la peur ensuite, et puis tout de suite après, c'est la réflexion sur les conséquences sur les autres, sur les réfugiés, sur l'Europe, sur la vocation de l'Occident, sur ce que je peux faire, sur ce que je dois faire et en quoi je suis moi-même utile. Et quand je dis moi, c'est-à-dire les gens comme moi qui essaient un petit peu de défendre quelque chose de juste, quelque chose de partagé et d'humain. J'ai été à la fois abasourdi, mais en même temps, encore une fois, je le redis, après Charlie, je n'ai pas été surpris. Je pense que c'était attendu et je pense que cela devait se produire et je pense que cela se reproduira encore.
Mais reprenons chronologiquement, puisque vous avez vécu donc les attaques terroristes de ce vendredi à New York, comment autour de vous, comment la ville de New York a-t-elle reçu ces informations et comment a-t-elle réagi ?
J'ai été étonné par une sorte de routine dans la tristesse, comme si maintenant on a fini par accepter l'idée qu'on est en guerre. Et c'est assez frappant. J'ai été avec des journalistes américains et les premières réactions, c'est que tous, en tant que journalistes, on répétait la même phrase. Qu'est-ce qu'on peut écrire maintenant ? Qu'est-ce qu'il s'agit de dire ? On n'avait plus de mots parce que tout a été dit. On avait l'impression que tout a été dit, tout a été vécu, tout a été dénoncé. Et j'ai été frappé par cette sorte de routine dans la surprise, dans la compassion, peut-être dans la réaction aussi. J'ai l'impression qu'on a fini par accepter qu'on est en guerre. Et je l'ai vu dans les propos des New Yorkais que j'ai croisés hier lors d'un dîner ou dans les commentaires de rue et dans les restaurants. C'était assez frappant.
Et c'est assez présent ce qui s'est passé à Paris encore aujourd'hui à New York ?
D'après ce que je vois dans les quartiers où je suis, oui, effectivement. Je suis logé pas très loin du consulat français et je suis passé hier, il y avait un rassemblement avec beaucoup de gens qui ont ramené beaucoup de fleurs, beaucoup de sentiments, un sentiment de recueillement, de compassion aussi. Il y a eu un rassemblement au centre de New York, du côté du downtown, je crois, et tout le monde en parle. Vous savez, il y a deux sortes de pays maintenant, des pays hantés en septembre et des pays post-en septembre. Et donc, il y a de la compréhension, mais en même temps, il y a une sorte de, je dirais pas de résignation, mais c'est comme quelque chose qui a détruit beaucoup de l'envie de réagir ou la possibilité de réagir à la fois.
Alors,
c'est quelque chose d'énorme.
C'est énorme. C'est la guerre pour vous, Kamel Daoud ?
je l'ai dit depuis l'année passée ou l'année d'avant, je l'ai toujours répété, ce n'est pas pour crier au malheur ou assombrir un petit peu les perspectives. Mais je pense qu'on est en guerre. Et je pense que les Daesh ou l'État islamique ou les djihadistes le comprennent très très bien. C'est nous qui par mécanisme de déni, de peur aussi, de refus, nous n'arrivons pas à comprendre qu'on est en guerre. Et on n'est pas en guerre dans le mode traditionnel de deux nations, l'une contre l'autre. On est en guerre dans une perspective très simple et qui est difficilement visible étonnamment. C'est celle d'une barbarie contre une humanité, tout simplement. On est en guerre et il faut que les gens le comprennent.
Alors, comment mener la guerre contre Daesh ?
C'est la grande question. Je pense que c'est la question du siècle aussi. Que faire des islamistes, que faire des djihadistes et que faire contre eux ou pour eux ? Moi, je parle de l'expérience algérienne. C'est une expérience qui, après 10 ans de guerre, s'est soldée par une sorte de consensus sur le mode d'une réconciliation nationale. C'est-à-dire offrir une amnistie pour que les gens redescendent des maquis et déposent les armes. Je le dis parce que c'est une solution trop partielle. Elle ressemble à la solution du tout sécuritaire, c'est-à-dire se battre avec des armes contre les terroristes. Mais cela ne suffit pas. Le problème n'est pas de tuer les terroristes maintenant, c'est éviter qu'ils le deviennent dans une génération. Éviter que des terroristes viennent au monde. C'est ça l'enjeu. Je ne comprends pas maintenant la position de l'Occident qui, tout à la fois, souffre et dénonce un Daesh noir et en même temps tient et serre la main à un Daesh blanc, en l'occurrence la matrice de l'islamisme, en l'occurrence l'Arabie Saoudite et son idéologie. Je ne comprends pas pourquoi à la fois on reconnaît que c'est une menace contre l'humanité et en même temps on essaie de nier le fait que cette menace est nourrie par une matrice idéologique qui est là sous les yeux de tout le monde. L'islamisme, le djihadisme ne tombent pas du ciel. Ils sont financés, ils sont une religion et ils sont aussi une idéologie d'un État et d'un royaume. Alors, si on veut lutter contre les terroristes, je suis d'accord pour que la lutte soit physique, mais en même temps, il faut qu'elle soit culturelle pour que les générations suivantes ne basculent pas dans le même... Dans cette idéologie-là et dans la même dans cette horreur-là.
Est-ce que vous ne craignez pas les amalgames, Kamal Daoud ? Est-ce que vous ne pensez pas que ça risque de stigmatiser encore une communauté qui va être associée d'une manière plus ou moins directe avec les terroristes ?
Pour moi, la logique est simple. Quand on ne prend pas la parole, les autres la prennent à votre place. Le problème n'est pas d'être stigmatisé. Le problème, c'est qu'il faut bouger pour ne pas l'être. Il faut se démarquer. Je suis désolé de le dire aussi brutalement, parce que maintenant, qu'on le veuille ou pas, nous sommes culturellement accusés et inculpés. Si c'est à nous de bouger, c'est à nous de nous déstigmatiser, à la limite. C'est à nous de nous distinguer, c'est à nous d'agir. Je suis désolé. Si les autres réagissent par la stigmatisation, c'est parce qu'ils ont peur ou ils sont blessés. Je ne dis pas que l'autre est totalement innocent, mais nous non plus, nous ne sommes pas innocents. C'est à nous d'agir aussi. C'est à nous de nous démarquer. Parce que pour le moment, notre silence, ça sert au vacarme des autres.
Kamal Daoud, pour terminer, Paris, c'est une ville que vous connaissez. Paris frappé au Bataclan, Paris frappé dans ses quartiers est, dans ses quartiers populaires aussi, Paris frappé dans un rassemblement autour du Stade de France, autour de la rencontre d'un match opposant la France et l'Allemagne. Est-ce que pour vous, c'est une cible symbolique et qu'il faudrait commencer à se poser ce genre de questions à propos...
Tout à fait.
Ouais, ouais.
Tout à fait. Je pense que si Daesh a ciblé la France, ce n'est pas parce que ce que je veux dire, ce qui n'a pas ciblé la France de souche, si elle existe, c'est qu'il a visé et ciblé la France de la diversité. Stratégiquement, quand on frappe un pays où il y a des millions de musulmans, c'est justement pour provoquer des tensions internes, des basculements, des inculpations, des chasses à l'homme, et donc une sorte de guerre interne qui finira par alimenter les gisements de refus des islamistes. Je pense que ce qui a été visé à travers la France, ce n'est pas l'idée d'une France occidentale, laïque, anti-musulmane. Au contraire, on a voulu casser et viser expressément une France de la diversité pour y mettre fin, justement. C'est ce qui a été visé, ce n'est pas uniquement la vie, c'est un mode de vie aussi.
Que représente Paris pour vous, Kamel Daoud?
C'est une fascination. C'est une ville symbolique de mes lectures, de ma culture. C'est des amitiés que j'ai connues là-bas. C'est des gens que j'ai croisés, qui ont été généreux avec moi. C'est le lieu d'une langue que je partage avec le monde et qui m'aide à partager le monde aussi. Et en même temps, c'est une capitale. C'est aussi le lieu et l'espace d'un Occident qui est à la fois désiré et rejeté. C'est une ville que j'aime beaucoup.
Merci d'avoir témoigné ce matin avec nous, Kamel Daoud. Merci beaucoup. Bon séjour aux États-Unis où vous faites la tournée des universités à l'occasion de la sortie de la version anglaise de votre roman Meursault contre-enquête. Merci beaucoup, Kamel Daoud.
Merci à vous. Merci à vous.
Tes yeux qui font pousser les miens, un rire qui s'ouvre sous sa peau.
Et on se quitte avec Madonna à Stockholm, sur scène, qui rend un hommage qui nous voit droit au cœur. Merci, on se retrouve demain. Merci aussi à Anaïs Isbert, Pascaline Bonnet, au réalisateur Thomas Duterre qui m'a accompagné depuis 6 heures. Vous pouvez réécouter cette émission en passant par franceculture.fr. Bonne matinée et à demain.